Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, un vent de fronde se lève au Royaume-Uni. Plus d'un million de Britanniques ont signé la pétition contre la suspension du Parlement décidée par Boris Johnson et ils étaient des milliers à manifester hier soir dans tout le pays. On voit ça après les autres titres, Agnès.
Encore un match de foot interrompu hier soir après des chants homophobes. Réaction des supporters dans un instant. À peine arrivée à New York, Greta Thunberg demande à Donald Trump d'écouter la science et à l'humanité de cesser de détruire la nature. Le casse-tête des municipales pour La République en marche. 8 cadres parisiens sur 10 ont des envies d'ailleurs. Et puis une boîte Lego Friends pour les nostalgiques de la coloc.
Les invités de France Inter ce matin, Léa, 7h50.
Recherche droite désespérément alors que les Républicains font leur rentrée en ordre très dispersé ce week-end et en l'absence de chef. On reçoit l'ex-ministre du budget Éric Woerth à 7h50. On lui demandera s'il ne se sent pas un peu seul en cette rentrée.
Et à 8h20, le grand entretien de la matinale avec l'historien Yvan Jablonka. Il publie « Des hommes justes », sous-titre « Du patriarcat aux nouvelles masculinités ». C'est aux éditions du Seuil. Vos questions dès maintenant, le standard est ouvert. 01 45 24 7000.
France Inter. Dans un instant, nous irons donc à Londres, mais revenons d'abord sur cette nouvelle soirée de foot gâchée hier par des chants et des banderoles homophobes. C'était lors de la rencontre entre Nice et Marseille pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. L'OM s'est imposé 2-1, mais la victoire a été ternie par des chants venus de la tribune des ultras niçois. L'arbitre a décidé d'interrompre la rencontre durant une dizaine de minutes. Une décision qui n'est pas une solution pour les supporters qu'a rencontré Dominique Poulain à la fin de la rencontre.
Les supporters sont agacés. Ils en ont assez d'être traités comme des citoyens de seconde zone. Les cris, les insultes et les banderoles ont toujours fait partie des ambiances des stades.
Ça n'a rien à voir avec l'homophobie. C'est juste quelque chose qui appartient au football depuis très très longtemps.
Purement scandaleux d'arrêter une partie de foot à la 20e, la reprendre à la 10 minutes après. Donc voilà, je trouve que c'est complètement ridicule.
Je pense qu'on est en train juste de tuer tout ce qui est le folklore, le spectacle du football à travers ces décisions complètement stupides.
Interrompre les matchs, est-ce la solution pour lutter contre les propos homophobes? Les supporters de l'OGC Nice n'en sont pas persuadés.
On ne fait pas beaucoup de pédagogie en amont. Tout de suite, on sanctionne en fait. Il aurait fallu peut-être convoquer les supporters, faire des réunions avec les groupes, leur expliquer un petit peu les messages et la pédagogie derrière. Là, on crée tout de suite une guerre entre ultra et ministère et la Ligue, quoi.
C'est à se demander en fait si y a des matchs de Ligue 1 qui vont aller à leur terme dans les prochaines semaines.
Des sanctions contre les supporters, je pense que ça pénaliserait surtout le club avant tout.
Pour d'autres, la sanction n'est pas la solution miracle. Ils prennent en exemple les fumigènes. Cela fait des années qu'ils sont sanctionnés. Pourtant, il y en a toujours dans les stades. Nice, Dominique Poulain, France Inter.
Une décision saluée au contraire par la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, Marlène Schiappa. Et à noter également que la Ligue de football professionnel a sanctionné le club de Nancy en suspendant la tribune Piantoni pour un match ferme après les incidents intervenus le 16 août dernier.
Scandale, menace, déni de démocratie. Des milliers de Britanniques, Agnès, sont descendus dans la rue hier soir.
À Londres, à Manchester ou encore à Édimbourg. Et ils n'ont pas de mots assez durs pour qualifier la décision du Premier ministre de suspendre la session du Parlement durant 5 semaines. Boris Johnson entend ainsi museler les députés qui s'opposent à un Brexit sans accord. Mais cette décision a donc déclenché une vague puissante de protestations. En moins de 24 heures, une pétition contre cette suspension a recueilli plus d'1 million de signatures. Ironie de l'histoire, au Royaume-Uni, toute pétition atteignant 100 000 signatures peut déclencher un débat au Parlement. Alors ils étaient d'ailleurs plusieurs milliers hier soir à manifester devant le Parlement et devant la résidence du Premier ministre. Reportage du correspondant de France Inter à Londres, Antoine Gignoux.
Devant les grilles de Downing Street, un homme enfile un masque à l'effigie de Boris Johnson. « Menteur !» hurle Julie, 75 ans, qui, quand on lui demande ce qu'elle ressent, répond en français.
« C'est la colère !»
Et elle explique pourquoi cette suspension du Parlement est pour elle inacceptable.
« We have members of Parliament.
Nous avons élu, dit-elle, des députés parce qu'on croyait qu'ils allaient nous représenter. Ils n'ont même pas le droit de parler alors qu'on traverse une période critique et qu'on s'achemine vers un Brexit sans accord. » Dans la foule, les drapeaux européens s'agitent. La plupart des manifestants ont voté contre la sortie de l'Union européenne il y a 3 ans, mais c'est surtout la méthode du gouvernement que dénonce Matthew, chef d'entreprise et ancien militant conservateur. C'est tout simplement abject, dit-il. En arriver là, après 300 ans de démocratie parlementaire, c'est scandaleux.
À
côté de lui, Igor précise qu'on soit pour ou contre le Brexit, ce n'est pas important. À ce stade, on n'en est même plus là. C'est une question de démocratie. La soirée avance, la foule grossit un peu. Alice, qui travaille depuis 5 ans à Londres, se rassure.
Il faut absolument que ça continue comme ça. La solution, c'est la mobilisation dans la rue.
Dans la rue et sur Internet, la pétition qui demande au gouvernement de renoncer à ses plans a dépassé hier soir le 1 000 000 de signatures. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Et 70 députés écossais ont annoncé des recours en justice. Leur leader devrait même démissionner dans la journée. À 8h15, Pierre Aski nous expliquera les dessous de cette décision prise par Boris Johnson. Colère à Londres et soulagement à Rome. Le mouvement anti-système 5 étoiles et le parti démocrate de centre-gauche sont parvenus à un accord pour former un nouveau gouvernement qui sera dirigé par le premier ministre sortant, Giuseppe Conte. L'accord doit être entériné ce matin par le président italien. Nous serons en direct de Rome dans le journal de 8h.
Il est 7h06 quand Greta Thunberg lance un appel à Donald Trump.
C'était cette nuit, peu après l'arrivée de la jeune Suédoise à New York, au terme de 15 jours de traversée de l'Atlantique à bord d'un voilier. Écoutez la science, a-t-elle demandé au président américain. L'adolescente qui doit participer le mois prochain à un sommet mondial de l'ONU a été accueillie à Manhattan par des centaines de militants, souvent très jeunes. Loïc Loury était là également, reportage.
Des messages de bienvenue et des slogans en faveur de la planète. Voilà l'accueil réservé à Greta Thunberg. La grisaille et la statue de la liberté en toile de fond. La foule n'est pas à la hauteur d'une ville comme New York, quelques centaines de personnes, mais la jeune activiste, malgré l'habitude, semble impressionnée.
Pour moi, le sol continue de trembler. C'est fou que quelqu'un de 16 ans doive traverser l'Atlantique pour porter ce message. Mais bien sûr, je ne demande pas à tout le monde de faire la même chose.
Mais sa voix portera-t-elle assez au pays du bruyant et climato-sceptique Donald Trump? Les plus jeunes venus en nombre veulent y croire, comme Alessandro.
On se dit que quelqu'un de notre âge a traversé l'océan Atlantique dans un petit voilier pendant 15 jours. Ça nous donne vraiment de l'espoir, de l'inspiration. On peut faire quelque chose. Il reste du temps, mais plus beaucoup. Nous n'avons plus que 10 ans.
Robin, la soixantaine, est venue à vélo. Trop tard pour moi, dit-il modestement. C'est aux jeunes et à Greta de passer à l'action.
Je reste juste assis, je suis confus, je m'inquiète. Et elle sort de chez elle et traverse l'océan sur un voilier. Je fais ce que je peux, mais je ne fais pas vraiment de différence. Je l'admire pour ça.
Et dès demain, elle sera devant l'ONU pour un Friday for Future, l'école buissonnière pour sauver la planète, mouvement qu'elle a initié il y a tout juste un an. New York, Loïc Loury, France Inter.
Un retour en France avec une pré-campagne pour les municipales décidément difficile pour La République En Marche. La désignation des têtes de liste dans les grandes villes se révèle être un casse-tête pour Emmanuel Macron. Laurence Perron.
Le président sait qu'il joue gros, surtout dans ce contexte où il entend refermer la page des gilets jaunes. Il s'agit de ne pas se montrer trop arrogant tout en se faisant fin alchimiste. Voilà pourquoi les investitures tombent encore au compte-gouttes. 115 villes seulement connaissent les noms de leurs candidats. Sur les 1200 villes de plus de 9000 habitants qu'envisagent de conquérir ou de cogérer La République En Marche. Le problème, c'est que rien ne se passe exactement comme prévu. L'alliance avec le MoDem de François Bayrou est éventrée dans plusieurs villes, notamment Marseille, Aix-en-Provence ou Clermont-Ferrand. Ça tend à Bordeaux avec la droite cette fois, où le parti présidentiel a choisi l'ancien secrétaire général adjoint de François Hollande contre le dauphin d'Alain Juppé. Et puis, il y a les tragédies internes. À Lille, c'est l'ancienne directrice de cabinet de Martine Aubry qui a été investie contre la députée En Marche, Valérie Petit. À Lyon, rien n'est réglé entre Gérard Collomb et David Kimmelfeld, qui l'a remplacé lorsqu'il était au gouvernement. Le summum étant atteint à Paris, où au terme d'un été épique, le mathématicien Cédric Villani annoncera une candidature dissidente mercredi prochain.
Bordeaux, Lyon et Nantes, ce sont justement les villes plébiscitées par les cadres qui souhaitent quitter Paris. 8 cadres sur 10 se disent prêts à franchir le pas, selon le site de recrutement Cadre Emploi, qui publie ce matin son classement des villes les plus attractives. À Lyon, Christophe Vincent a ainsi rencontré un couple d'ex-parisiens qui ne regrettent rien.
Cadre à EDF, Capucine a quitté la Défense pour la Part-Dieu, non loin de son nouvel appartement qu'elle rejoint à vélo, comme son mari, Martin, lui a délaissé la finance et créé son entreprise de coaching sportif. Entre Asnières, en proche banlieue, et Lyon-Centre, le changement ne semble pas flagrant, et pourtant.
On avait un petit appartement de 55 mètres carrés, des trajets relativement importants pour aller travailler, des difficultés en mode de garde, et puis surtout peu d'espace et peu de verdure. Alors qu'à Lyon, aujourd'hui, on arrive à concilier à la fois une vie professionnelle qui est super dynamique et en même temps une qualité de vie incroyable. Et puis tous les week-ends, on peut sortir de Lyon pour aller à la campagne, à la montagne, voire à la mer, hyper facilement, même sur la journée.
Lyon est une ville chère, de plus en plus. plus, mais là encore...
Pour le même loyer mensuel, on a gagné à peu près 40 mètres carrés avec une chambre supplémentaire. Aujourd'hui, on a deux enfants. C'est un vrai plus. Quoi.
Capucine et Martin n'ont aucun regret.
C'est encore une plus belle surprise que ce que j'avais pu imaginer. Lyon est une ville absolument magnifique.
C'est un projet qui a répondu complètement à nos attentes. On est super contents d'être à Lyon. Nos enfants sont ravis aussi. On est trop contents.
Au point de faire des émules, la sœur de Martin arrive dans quelques mois. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
Pourquoi les cadres veulent fuir Paris? C'est à lire également sur franceinter.fr. 300 euros en moyenne de plus par an pour les enseignants. La mesure avait été décidée sous François Hollande, mais sera effective l'an prochain. Le ministre de l'Éducation nationale a également annoncé hier soir le doublement de la prime. Pour les 50 000 professeurs en réseau d'éducation prioritaire, la prime passera ainsi de 1 000 à 2 000 euros par an. En bref, encore la désignation de Sylvie Goulard pour siéger à la Commission européenne. Emmanuel Macron a choisi une spécialiste de l'Europe, ancienne eurodéputée, qui parle parfaitement anglais, allemand et italien, mais citée dans une affaire d'emploi fictif présumée au Modem. Ce choix doit encore être entériné par le Parlement européen.
Excusez-moi, 7h11, Agnès, pour finir, la stratégie payante de Lego.
La petite brique célèbre en plastique a su s'adapter au goût des enfants, multipliant les séries, Star Wars et Harry Potter en tête. Et pour séduire à présent les adultes, Lego s'apprête à commercialiser une boîte Lego Friends, du nom de la série américaine relatant les aventures de Ross, Rachel et Monica. Tout y sera, du canapé orange à la petite part de pizza. Et c'est un Français qui est derrière tout ça, Aymeric Fievé. Il a raconté sa belle aventure à Béatrice Duguay.
Friends, Aymeric Fievé, on apprécie l'humour et l'univers.
Au fait, Monica, c'est vrai que t'as vu Donald Trump à la fête de la cuisine?
Oui, il attendait un ascenseur.
Les petites briques, il y joue depuis qu'il est gamin.
Tout ce qui était police, pompiers, j'aimais beaucoup. Et puis, arrivé à un certain âge, donc j'ai arrêté, bien sûr, et j'ai repris à mes 30 ans, là, quand j'ai eu mon premier enfant. Et puis, depuis, je collectionne surtout les mini-figurines, de toutes séries confondues, et puis voilà.
Ces deux passions, il les croise donc un jour, en imaginant les personnages et les éléments en 3D. Et il poste le projet sur la plateforme Lego Ideas, précisément dédiée aux initiatives des créateurs amateurs. Deux ans plus tard, sa proposition recueille plus de 10 000 votes de fans. Du coup, le fabricant de jouets en étudie la faisabilité et la viabilité. Bingo, il y a quelques mois.
Ils m'ont appelé sur Skype pour m'annoncer la nouvelle. Donc, ils étaient assez nombreux autour de la table en me disant « Félicitations, ton projet a été retenu ». J'étais très heureux, j'ai fait très heureux. Une fois que j'ai raccroché, j'ai sauté partout. C'est un rêve de gosse, en fait, qui sera à 10 ans.
La boîte sort dimanche prochain, 1737 pièces à assembler dedans.
Le designer, il a fait un boulot extraordinaire. C'est un montage assez complexe derrière qui permet de réaliser des formes que moi, je n'avais pas pensé. D'ailleurs, je suis un peu dégoûté.
Public visé plutôt les adultes fans de la série, comme un objet collector. Aymeric Fievé lui touchera 1% sur chaque boîte de jeu vendue.
Et pourquoi pas une boîte Lego Maison de la Radio
ben oui,
avec des petits
mal.
Micros.
Oui. Merci Agnès Soubiran.